Alléluia. Nous venons de chanter quelque chose d'extraordinaire. Nul n'est comme Dieu. Nul n'est comme Dieu. Et c'est vrai que quand on considère tout ce que écrit dans la parole de Dieu, eh bien on se rend compte que Dieu est vraiment puissant, que Dieu est vraiment grand, qu'il contrôle tout, il a tout pouvoir, non seulement ici-bas, mais également dans tout l'univers. C'est vrai que c'est un Dieu merveilleux. Mais aussi, c'est un Dieu qui est réellement fidèle, qui ne cesse de... Alors j'ai utilisé ce mot, qui ne cesse de combattre ou d'agir pour le bien de l'homme et de la femme qu'il a créé. Et c'est vrai que Dieu a un but suprême que nous connaissons. C'est qu'il veut que tous les hommes et toutes les femmes parviennent à la connaissance de la vérité, que tous parviennent à la connaissance de la vérité, mais aussi il veut que tous parviennent à la connaissance de sa volonté, je crois, de sa volonté. Et c'est vrai que toute la parole de Dieu nous parle de cette vérité qu'est notre Dieu. C'est un Dieu plein d'amour, plein de grâce, plein de puissance, plein de fidélité, plein de compassion. Il pardonne, il a tellement de caractéristiques qu'on ne peut pas toutes les nommer. Dieu est vraiment grand. Et c'est vrai que Dieu est réellement grand, mais aussi c'est un Dieu qui agit, comme je l'ai dit. C'est un Dieu qui agit. Et c'est vrai que quand on regarde dans la parole de Dieu ce qui est écrit concernant essentiellement le peuple d'Israël, vous savez, une fois que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le chemin n'a pas été toujours facile. Le chemin n'a pas été toujours facile pour arriver au pays de la promesse, au pays de Canaan. Et il y a un verset, une expression qui revient souvent dans les livres du début de l'Ancien Testament. Il y a une expression qui revient souvent. L'Éternel, et c'est Dieu qui s'adresse au peuple d'Israël, et il dit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » L'Éternel combattra pour vous. Ça ne veut pas dire que, parce que l'Éternel combattait pour que le peuple d'Israël puisse progresser vers le pays où Dieu voulait l'envoyer, ça ne veut pas dire que parce que Dieu agissait, que Dieu combattait pour eux, qu'ils devaient rester inactifs. Ils devaient aussi combattre. Ils avaient aussi des choses à accomplir. Et il y a un exemple qui est frappant aussi, où on voit que Dieu a réellement agi. C'est une fois qu'ils étaient prêts à passer le Jourdain et qu'il y avait une ville fortifiée qu'il fallait prendre, qui s'appelle Jéricho. Et qui c'est qui a combattu pour vaincre Jéricho? C'est Dieu qui a combattu. Hein? Le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a eu à faire? A tourné autour de la ville pendant 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours. Et puis à un moment, Jonas a dit, faites retentir les trompettes et criez. Au son de la trompette et au cri du peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles de Jéricho, c'est une ville fortifiée, les murailles se sont écroulées et le peuple d'Israël... Le peuple d'Israël est rentré et il a pris possession de tout ce qu'il y avait dans cette ville de Jéricho. Et là, on voit que Dieu est quand même un Dieu fidèle et effectivement qu'il est puissant pour combattre pour que le peuple d'Israël puisse vraiment bénéficier de tout ce que Dieu avait promis. Et le sujet de ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est, j'ai mis ce titre, « Être un combattant fidèle au service de Dieu », être un combattant fidèle pour Dieu. Et c'est vrai qu'un combattant, c'est quelqu'un qui progresse petit à petit pour vaincre l'ennemi. Et dans un but, c'est de remporter une victoire. Et c'est vrai pour le peuple d'Israël, mais c'est vrai également pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à combattre. Et quand on lit ce que Paul préconise à Timothée, dans les épîtres de Timothée, première et deuxième épître, il y a une expression qui revient souvent. Et j'aimerais qu'on lise dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Et tout au long des épîtres de Timothée, on retrouve cette expression aussi. C'est Paul qui s'adresse à Timothée et qui lui dit « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et il rajoute malheureusement « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le commandement que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Combattre le bon combat. Et dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui autrefois n'étaient pas légitimes et qui aujourd'hui sont légitimes, sont même indispensables, je dirais presque. Et en tant que chrétien, je crois que nous avons un combat à mener. Nous devons être vigilants. Nous devons rester vigilants pour garder justement une bonne conscience, pour ne pas se dévier dans toute direction. Et c'est vrai que les lois et les ordonnances de Dieu qui sont enseignées dans la parole de Dieu sont toujours valables, parce que Dieu, lui, ne change pas. Dieu ne change pas. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et à combien plus forte raison, si le but de Dieu est que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, Dieu veut également que cette vérité nous amène toujours plus dans la connaissance de sa volonté, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Et sans oublier, c'est bien de connaître, mais une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est l'obéissance. L'obéissance à la volonté de Dieu. Obéir, c'est quoi ? Obéir, c'est souvent c'est savoir faire le bon choix, savoir faire des choix. Obéir, c'est aussi c'est un peu le combat qu'on doit mener. Ça permet de progresser dans la bonne direction. Et c'est vrai que dans le monde actuel, nous sommes souvent sollicités par toutes sortes de choses qui peuvent nous paraître légitimes, mais qui peuvent aussi nous faire oublier l'essentiel. Nous faire oublier l'essentiel. Notre position en tant que témoin, nous faire oublier notre position en tant que témoin de la grâce de Dieu par nos comportements ou par nos paroles. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça peut aussi nous faire oublier notre communion et notre relation, cette communion et cette relation que nous devons avoir avec notre Père Céleste et notre Seigneur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. C'est que quand à la fin de la journée, quand on considère ce que l'on a fait, eh bien, on culpabilise quelquefois d'avoir oublié cette relation que nous devons avoir avec Dieu, cette relation quotidienne. C'est vrai, c'est des choses qui arrivent, des choses qui nous paraissent légitimes, qui prennent de la place, mais qui nous font oublier cette relation que nous devons avoir avec notre Père Céleste. Et comme Paul le dit à Timothée, nous sommes appelés à combattre le bon combat, à ne pas nous laisser détourner de la volonté de Dieu. Être obéissant à la parole de Dieu, à ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, mais aussi à l'action du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs, qui nous rappelle toutes ces choses. Et c'est aussi ce que Paul rappelle à Timothée dans 2 Timothée au chapitre 1, verset 6. 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Voilà encore ce qu'il dit à Timothée. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre, de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et qui nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, tout au long de cet épître, eh bien Paul exhorte Timothée à vraiment combattre le bon combat de la foi. Il a dit à ranimer le don que tu as reçu de Dieu, le don de Dieu. Et ranimer le don, c'est aussi ce que j'ai. C'est ne pas le laisser s'endormir, ne pas l'oublier. Et je crois que nous avons tous reçu un don de la part de Dieu. Nous avons tous reçu un don de la part de Dieu. C'est celui d'être un témoin fidèle de la grâce et de ce que Dieu est capable d'accomplir. Être un témoin fidèle par mes paroles et par mon comportement. Et dans une autre version que j'aime bien, il est dit, dans la version parole vivante, c'est Paul qui le dit aussi, il dit « C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Je te demande de raviver la flamme que Dieu a animée en toi, allumée en toi. N'oublie pas de l'entretenir, d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce. » Et en général, quand on parle de flamme, cela nous rappelle l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Cela nous rappelle cette action, c'est ce que le Saint-Esprit peut, comment le Saint-Esprit peut agir dans nos vies. Et c'est vrai que lorsque nous avons confessé nos péchés, lorsque nous avons reconnu que Jésus-Christ était notre Rédempteur, le Saint-Esprit a agi dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais moi ça fait déjà très longtemps, mais je m'en rappelle encore. C'est cette paix qui a jailli dans nos cœurs, dans mon cœur, et qui a jailli dans le cœur de chacun d'entre nous, pour nous faire comprendre que Dieu avait pardonné nos péchés, et que nous, à partir de ce jour, nous pouvions bénéficier de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ. Et c'est vrai, il y a eu une paix qui est venue dans notre cœur. Et la paix, c'est vraiment le résultat du salut en Jésus-Christ. Et quand on connaît tous la parole de Dieu, quand on regarde dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de flamme. Il nous est parlé dans le tabernacle, il y avait un objet qui était en or et qui avait un rôle important. C'était le chandelier, un chandelier. Et le sacrificateur devait constamment veiller qu'il y ait suffisamment d'huile d'olive, de l'huile d'olive pure, pour que le chandelier ne s'éteigne pas. Il fallait qu'il reste allumé en permanence. Et le sacrificateur, eh bien, il fallait qu'il re-remplisse fréquemment le chandelier pour que les lampes puissent rester allumées. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants qu'il a racheté. Que cette flamme qu'il a mise en nous ne s'éteigne pas. Que cette flamme ne s'éteigne pas. Et c'est vrai que une flamme, c'est quelque chose qui est visible, qu'on peut repérer d'assez loin. D'ailleurs, quelquefois, on voit des reportages à la télé, quand il y a un incendie, on le voit de très loin. Et ça surprend tout le monde. Et c'est vrai que cette flamme que le Seigneur a mise dans nos cœurs doit être visible également. Parce qu'en tant que chrétien, nous devons bien. Cette flamme doit être bien entretenue pour que nous soyons de véritables témoins de la grâce et de l'amour de Dieu manifestés en Jésus-Christ. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, nous ne devons pas nous laisser entraîner dans toutes sortes de choses qui pourraient faire baisser cette lumière et petit à petit l'éteindre. Nous sommes en permanence appelés à combattre toujours le bon combat de la foi, et combattre le bon combat, mais aussi à ranimer, à maintenir cette flamme allumée dans nos vies et dans nos cœurs. Et pour cela, combattre c'est aussi garder une foi ferme et avoir une bonne conscience. C'est quelque chose d'important dans la vie du chrétien. Et toujours pareil, dans la première épître de Timothée au chapitre 6, verset 11, Paul aussi encore exhorte Timothée et lui dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Et dans les versets précédents, Paul parle des choses du monde, que le monde fait miroiter et qui peuvent être sujets aussi pour séduire les chrétiens. Et il lui dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Et ces choses qui sont expliquées dans les versets précédents, c'est l'orgueil, la dispute, la corruption, le vol, enfin, il y a toutes sortes de choses qui sont dans ce monde. Mais il lui dit « Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Combat le bon combat de la foi. Et c'est vrai que nous sommes appelés à rechercher ces qualités que Dieu veut que nous ayons. La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Et pour cela aussi, il faut mener un combat. Ça ne vient pas automatiquement dans nos cœurs. Je crois qu'on est obligé, on doit combattre ce bon combat de la foi. Et c'est vrai que c'est... Il y a une chose qui est importante, c'est de se nourrir de la parole de Dieu aussi. Se nourrir de la parole de Dieu. Ne pas oublier la parole de Dieu. Et également, il y a une chose qui est importante, c'est la prière. Cette prière que nous pouvons faire, que nous pouvons adresser à Dieu pour lui demander justement de raviver tout ça, toutes ces choses dans notre cœur et que nous puissions vraiment nous en souvenir. Parce que nous avons un but aussi que Dieu nous a donné, c'est de fuir toutes ces choses mauvaises qui sont entretenues dans le monde actuel. Et en réfléchissant à tout ce que nous voyons et comment les choses évoluent de plus en plus dans le monde et qui sont opposées à ce qui est enseigné dans la Bible, j'ai pensé à une chose, un événement qui est décrit aussi dans la parole de Dieu, et qui nous est rappelé au début du livre de la Genèse. Vous le connaissez, c'est qu'il est arrivé une période où le péché dominait tellement le monde que Dieu a envoyé une sanction. C'est au Genèse chapitre 6, verset 5. Voilà ce qui est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal, pas vers le bien, uniquement vers le mal. Et voilà ce qui est dit, ce qui est écrit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis, l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Et au verset 8, il y a une chose importante qui est dite, il y a un « mais ». « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé, il nous est dit, « Noé était un homme juste et intègre dans son temps. » Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Et quand on voit ce qui est écrit dans les versets précédents, cette corruption qu'il y avait dans le monde, je me suis dit, mais Noé, il devait mener sûrement un combat. Un combat pour rester fidèlement attaché à la vérité que Dieu lui avait mis dans son cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui sont à la portée des hommes, de tous les humains, qu'on peut facilement se laisser entraîner et oublier des choses que Dieu nous demande de maintenir. Mais Noé, lui, il est resté juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et quand on lit ces versets, on peut se poser la question, quelle corruption il y avait, il devait y avoir dans le monde à cette époque. Quelle corruption il devait y avoir. Et c'est pour cela que je me suis dit, mais Noé, il devait faire des efforts pour pouvoir vraiment rester fidèlement attaché à la parole de Dieu. Il devait mener un combat. Et quand on regarde le début de la Bible, c'est au chapitre 6 de la Genèse, entre le premier chapitre et le chapitre 6, il n'y a pas eu une éternité. Il n'y a pas eu un temps, une très 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 grande période. Mais c'est là qu'on se rend compte que l'ennemi de nos âmes, celui qui veut la perdition de tous, il fait du travail. Il fait du travail. Et nous devons rester vigilants pour éviter de se laisser entraîner dans toutes sortes de choses. Et je crois que quand on voit le comportement de Noé, on peut dire que c'est un merveilleux témoignage que nous avons de cet homme. C'est un merveilleux témoignage que nous avons de cet homme. Car c'est le seul parmi tout ce qui existait à cette époque-là, c'est le seul qui était juste, intègre et qui marchait en conformité avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Et c'est vrai, comme je l'ai dit, Noé a dû mener un dur combat. Et non seulement pour lui-même, mais je pense qu'il a dû mener un dur combat aussi pour l'éducation de ses enfants. Parce que c'est vrai que, bon, c'était pas comme aujourd'hui, on n'a pas Internet et toutes sortes de choses qui peuvent corrompre. Mais il a dû quand même rester vigilant pour bien éduquer ses enfants. Et ses enfants ont aussi profité de la grâce de Dieu. Hein. Et donc il y a eu ce déluge qui a tout détruit, et après le déluge, Dieu s'est encore révélé à Noé et lui a fait une promesse. Il a dit, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Il a fait cette promesse à Noé, mais à ses enfants également. J'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. Le signe de l'alliance. Vous savez ce que c'est le signe de l'alliance que Dieu a établi? C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Et c'est vrai que l'arc-en-ciel, quand ça apparaît dans le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Je ne sais pas vous, mais moi, chaque fois que je voyais l'arc-en-ciel dans le ciel, je dis, Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ça nous rappelle, à nous qui connaissons la parole de Dieu, cette alliance que Dieu a établie entre Noé, mais aussi également pour nous, puisque nous sommes aussi la postérité de Noé. Et donc, quand on voit cet arc-en-ciel, on est surpris de la bonté et de la grâce de Dieu. Et on est aussi surpris de voir que Dieu ne s'arrête, n'a pas une durée limitée. La grâce de Dieu continue. Elle continue. Et moi, je me suis posé la question aussi, je ne sais pas vous, mais quand on pense à ce qui se passait il y a certaines années en arrière. C'est vrai que L'arc-en-ciel apparaissait fréquemment, assez souvent. Mais moi, je me pose la question parce que depuis quelque temps, je me rends compte que l'arc-en-ciel, même quand il y a un orage, quand il y a des pluies torrentielles, l'arc-en-ciel, on le voit de moins en moins. Je ne sais pas vous, et je me pose la question aussi. Qu'est-ce que ça peut signifier par rapport à ce qui est enseigné dans la parole de Dieu? N'est-ce pas là aussi quelque chose qui nous parle que on se rapproche de plus en plus à cette fin des temps où la grâce de Dieu, la porte de la grâce, va un jour être fermée? Et moi je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un signe aussi pour qu'on puisse se réveiller aussi et continuer et vraiment combattre le bon combat de la foi pour que d'autres puissent participer à cette grâce que Dieu veut accorder à tous les hommes? Et j'ai encore un peu de temps. Il y a un autre exemple que j'aimerais prendre, c'est qu'il y a un homme dont son histoire nous est racontée. Je vais le parcourir très rapidement. Il y a un homme dont son histoire nous est racontée dans la Bible, qui, comme Noé, un jour a entendu un appel particulier de la part de Dieu. Mais cet homme-là, il a mené un drôle de combat. Il a mené un drôle de combat. Et cet homme, il s'appelle Jonas. Hein? Dieu s'est adressé à lui, et Dieu lui a dit, « Lève-toi et va à Ninive. Lève-toi et va à Ninive et annonce-leur que je vais détruire Ninive. » Et qu'est-ce qu'a fait Noé? Il s'est levé. Mais au lieu d'aller dans la direction que Dieu lui avait donnée, il a pris une autre direction. Il a pris une autre direction. Il est allé à Tarsis. Enfin, il voulait aller à Tarsis. Il n'y est pas arrivé. Il n'y est pas arrivé. Mais on ressent dans l'histoire de Jonas que il ne voulait pas accomplir la volonté de Dieu. Lui, il était pris par ses pensées. Il était pris par, je ne sais pas, par toutes sortes de choses. Il se croyait peut-être privilégié par rapport aux autres. Moi, je suis sauvé, moi, je connais Dieu. Que les autres disparaissent. Et il avait un drôle de comportement. Mais on sait que Dieu a permis qu'il lui arrive une chose aussi, c'est qu'il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours, je crois. 3 jours. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Et puis là, il a pris conscience qu'il avait désobéi à la volonté de Dieu. Et il a adressé une prière à Dieu. Et Dieu est intervenu. Dieu est intervenu. Le poisson l'a rejeté sur une plage. Et Dieu lui a parlé. Il lui a encore dit, lève-toi et va à Ninive. Il lui a redit, lève-toi et va à Ninive. Et là, cette fois, Jonas, il a obéi. Il est allé à Ninive. Il a fait ce que Dieu lui demandait. Il a crié dans la ville que la ville allait être détruite. Et là, il y a une chose qui s'est passée aussi, c'est que tous les habitants de Ninive, y compris le roi également, y compris le roi, ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon à Dieu. Et ils ont imploré la grâce de Dieu. Et Dieu ne les a pas détruits. Et Jonas était très content. Non. Jonas n'était pas du tout satisfait de ce que Dieu avait accordé la grâce à tout le peuple de Ninive. Il n'était pas heureux. Et même il va dire à Dieu, mais j'aurais jamais dû faire t'écouter. J'aurais jamais dû venir aller à Ninive. Parce que je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche à monter, et qui te repent du mal que tu veux faire. Voilà ce qu'il dit à Dieu. Hein. J'aurais pas dû venir, j'aurais pas dû écouter. Alors je me suis posé la question aussi là. Quel combat a mené Jonas? Quel combattant il a été Jonas? ça a été un combattant opposé à la volonté de Dieu. Et pourtant, il connaissait Dieu. Et pourtant, Dieu lui parlait. Et il était quand même opposé à la volonté de Dieu. Il savait écouter la voix de Dieu, mais c'était son idée à lui qui l'animait. Ce n'était pas ce que Dieu lui demandait, mais il faisait ce qu'il avait envie de faire. Pour lui, c'était un peu comme si la flamme que Dieu avait allumée en lui, en lui adressant sa parole, c'est comme si cette flamme, il éteignait, il en était sous le boisseau. Il ne voulait pas, surtout pas que les autres bénéficient de l'amour et de la grâce de Dieu. Et ça aussi, je crois que c'est un drôle de témoignage pour quelqu'un qui connaît la grâce de Dieu. C'est un drôle de témoignage. Et Jonas a mené un drôle de combat. Combat de désobéissance et d'opposition à la volonté de Dieu. Je ne sais pas quelle conscience il devait avoir, mais elle ne devait pas être très nette, sa conscience. Et donc, voilà, en quelques... Je crois que nous sommes appelés à mener le bon combat. Pas le combat que nous avons envie de mener nous-mêmes, mais le combat que Dieu veut que nous menions. Et pour nous qui connaissons la volonté de Dieu, au travers de l'enseignement de sa parole et de l'action du Saint-Esprit en nous, nous ne devons pas nous tromper dans le combat que nous devons mener. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par toutes sortes de choses que l'ennemi de nos âmes ne cesse de nous faire miroiter, ou quelquefois par nos pensées, et même le orgueil qu'on peut avoir en nous. Comme Timothée, nous sommes appelés à combattre le bon combat de la foi et avoir une bonne conscience. Et nous ne devons pas oublier, c'est vrai, frères et sœurs, et moi également, nous ne devons pas oublier d'entretenir cette flamme que Dieu a mise dans chacun d'entre nous, le jour où nous avons découvert son amour et sa grâce manifestée par le sacrifice de son Fils, Jésus-Christ. Ne soyons pas des Jonas, mais soyons tous des Noé qui restent fidèlement attachés à la volonté de notre Père Céleste. Quand on pense à Noé, la construction de l'arche, il n'a pas dû la faire en quelques jours. Ça a dû être long. Ça a dû être long. Je ne sais pas si avec quels outils il a construit. Il n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui nous-mêmes, nous, pour construire des choses extraordinaires. Mais il fallait être dégourdi là, à cette époque. Et ça a dû prendre du temps. Et sûrement qu'il a dû avoir des critiques. On a dû lui poser beaucoup de questions par rapport à ce qu'il faisait. Mais il est resté fidèlement attaché à la volonté de Dieu. Et je crois que l'arche que Noé a construite est aussi un peu l'image, peut-être l'image de l'Église que nous sommes appelés à construire, nous, pour que beaucoup puissent aussi se mettre à l'abri en découvrant l'amour et la grâce que Dieu a manifesté en offrant son Fils Jésus-Christ en sacrifice à la croix du calvaire. Je crois que c'est ça aussi que Dieu veut que nous... C'est pour cela que Dieu veut que nous soyons de bons combattants, pour que d'autres âmes puissent venir se mettre à l'abri de Dieu et découvrir sa grâce et son amour. Combattre le bon combat, c'est profiter de toutes les occasions pour être un bon témoin de la grâce de Dieu. Profiter de toutes les occasions. Et ce n'est pas facile. Quelquefois, la timidité prend la place et on oublie d'être des bons témoins. Mais je crois qu'on doit demander à Dieu de nous communiquer vraiment cette puissance, ce zèle, et d'être vraiment sensible à l'action que le Saint-Esprit peut faire dans chacune de nos vies. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais nous devons aussi se servir de ce moyen de la prière pour pouvoir rester soumis à l'action de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir recevoir cette force et le courage indispensable pour être un bon combattant pour être un combattant fidèle pour le Seigneur, avec un but. Le combattant, il a un but, c'est remporter des victoires. Remporter des victoires sur celui qui veut que tous les hommes soient perdus. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais il y en a un, lui son but c'est éloigner tous les hommes de Dieu. Mais nous, nous sommes là pour, justement, pour témoigner de la grâce de Dieu, pour que l'ennemi recule et que d'autres personnes puissent découvrir l'amour et la grâce de Dieu. Et dernier verset, que toujours pareil, c'est Paul qui parle, qui s'adresse à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, il lui redonne encore un conseil, c'est pratiquement la fin de la deuxième épître, il lui redonne un autre conseil, « Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. » Ça veut dire qu'être un témoin, ce n'est pas toujours facile. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. Quand on parle de ministère, on pense au pasteur. Mais je crois qu'on a tous un ministère à remplir. Dieu nous a donné une fonction aussi à chacun d'entre nous. C'est être des témoins de Jésus-Christ, remplir bien notre ministère pour que d'autres âmes puissent être sauvées. Et voilà ce que dit Paul aussi, « Car pour moi je sers de libation, et le moment de mon départ approche. » Mais il termine par une phrase, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et moi, je prie le Seigneur pour que je puisse aussi un jour entendre ça, mais pas, que ce ne soit pas moi qui le dise, mais que ce soit que le jour où j'irai à la rencontre de mon Père Céleste, qui me dise, tu as combattu le bon combat, tu as gardé la foi, tu as bien accompli ce que tu devais accomplir. Alors, entre dans la joie de ton maître. Profite de la vie éternelle, de cette paix qui ne s'arrêtera jamais. Et je crois que c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, que nous puissions vraiment combattre le bon combat de la foi et que nous puissions aussi, le jour où nous rencontrerons notre Père Céleste, entendre ses paroles. Tu as combattu le bon combat de la foi, tu as achevé la course, alors entre dans la joie de ton Père. Que ce soit vraiment quelque chose pour chacun d'entre nous. Ne nous relâchons pas, frères et sœurs. Même si ce n'est pas toujours facile, restons fermement attachés au Seigneur. Soyons des combattants fidèles. Combattants, ça veut dire qu'aussi, comme je l'ai dit, que nous devons progresser dans notre connaissance, dans notre obéissance, dans notre consécration, pour le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que c'est vrai, ta parole est riche d'enseignements, Seigneur. Et ce que nous voulons, c'est nous laisser nourrir de ta parole, Seigneur. C'est vraiment, Seigneur, nous laisser envahir, Seigneur, par l'action de ton esprit, Seigneur, pour que nous puissions toujours être des ouvriers utiles entre les mains de notre Père Céleste, que nous puissions vraiment combattre le bon combat de la foi, pour que des âmes puissent encore découvrir l'Évangile, Seigneur. Notre Dieu, nous croyons que c'est ce que tu attends de chacun d'entre nous, Seigneur, que nous soyons des ouvriers utiles, Seigneur, pour l'œuvre que tu as prévue pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions, Seigneur, et que je te prie, Seigneur, pour moi-même et pour mes frères et sœurs, Seigneur, que dans le cœur de chacun d'entre nous, Seigneur, il y ait toujours, Seigneur, cette conviction, ce désir, Seigneur, d'être des ouvriers utiles entre tes mains, Seigneur, de ne pas nous laisser, Seigneur, séduire par quoi que ce soit, Seigneur, mais de vraiment, Seigneur, être toujours des combattants fidèles, Seigneur, même qui mènent le bon combat, celui qui permet, Seigneur, à plusieurs, Seigneur, de pouvoir découvrir l'Évangile, Seigneur, de pouvoir être vraiment réconcilié avec notre Père Céleste. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons vraiment être des ouvriers utiles entre tes mains, Seigneur. C'est pour cela que nous te prions vraiment, que je te prie vraiment, que le Saint-Esprit travaille dans chacune de nos vies pour que nous soyons vraiment des ouvriers, ces ouvriers utiles que tu veux que nous soyons. Merci, notre Dieu, et que vraiment ces paroles, Seigneur, puissent rester gravées dans nos cœurs, Seigneur, afin de ne pas oublier toutes ces choses, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, nous sommes fragiles, Seigneur, mais avec toi, Seigneur, nous pouvons vraiment, Seigneur, remporter des victoires et être les ouvriers que tu veux que nous soyons. Merci, notre Dieu. Amen. Amen.